Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h22, merci à vous d'écouter Europe 1. On va ouvrir maintenant ensemble le club des idées d'Europe 1. La laïcité à l'épreuve du vivre ensemble, instrument théoriquement d'égalité et de fraternité, mais est-elle encore adaptée à notre société? Est-elle en danger aujourd'hui? On en parle avec mes invités ce soir en direct. Le sociologue Michel Wieborka, bonsoir.
Bonsoir.
Patrick Kessel, président d'honneur du comité Laïcité République, auteur de « Ils ont volé la laïcité » aux éditions Gazevitch-Balland, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et nous sommes aussi en ligne avec l'historienne Valentine Zuber, professeure à l'école pratique des hautes écoles et auteure de La laïcité en débat au-delà des idées reçues aux éditions Cavalier Bleu. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci à tous les trois d'être avec nous ce soir. Alors je voudrais qu'on pose le débat dans un premier temps de façon assez simple. La laïcité dont on parle tant depuis quelques jours, la laïcité, c'est quoi? C'est la liberté d'avoir une opinion? Michel Wieborka?
La laïcité, ça a d'abord été un combat.
Oui.
Ça a été un combat contre l'obscurantisme et contre le pouvoir de l'Église catholique sur l'État et sur la société, contre son emprise. Et la laïcité, c'est une loi, il faut quand même le dire, c'est la loi de 1905, de séparation des Églises et de l'État. C'est une loi qui dit non pas il faut combattre la religion, c'est pas du tout ça. Il faut séparer ce qui est de l'ordre de la religion et ce qui est de l'ordre de la vie publique, de la vie politique en particulier. Il faut les séparer. Et donc ça a été un combat qui s'est terminé non pas en 1905, mais plutôt en ce qui concerne l'Église catholique. Les autres églises étaient assez souples, si je peux dire, protestantes ou juives. Mais en ce qui concerne l'Église catholique, on peut dire que le combat s'est vraiment, a été vraiment réglé dans l'entre-deux-guerres.
Alors, si on en parle tant en ce moment de cette loi de 1905, de séparation entre l'Église et l'État, c'est aussi parce qu'elle a été conçue, vous le disiez, à une époque où la religion catholique était prédominante très largement en France. Elle n'avait donc pas pris en compte l'émergence de l'islam. Alors, ma question ce soir, c'est, est-elle encore adaptée à notre époque, sachant qu'aujourd'hui, l'islam est la deuxième religion de France, hein. Valentine Zuber?
Oui, alors je reviens tout de suite sur votre résumé. En 1905, la France connaissait l'islam. Hein. La France
qui n'avait pas le poids qu'il a aujourd'hui en France.
Ah mais non, mais un empire colonial avec deux départements d'Algérie qui étaient majoritairement composés de personnes de culture et de religion musulmane et qui appartenaient donc à l'Empire français, enfin et à la France métropolitaine.
Alors, j'aimerais comprendre pourquoi cette loi, aujourd'hui, elle pose autant problème, Patrick Kessel.
Permettez-moi d'un mot de revenir sur le début de la définition un peu de la laïcité. Il faut prononcer le mot de liberté de conscience. La laïcité, elle vient comme une continuité de la Révolution française. Avant la Révolution française, la France est organisée en communautés, en régions, en groupes religieux. Il y a chacun sa langue, chacun ses droits. La Révolution et petit à petit la République vont mettre en place un système qui fait qu'il n'y a pas de groupe séparé, il n'y a plus que des femmes et des hommes qui sont censés, ça va mettre longtemps à se concrétiser, mais qui sont censés être libres égaux, quelle que soit leur couleur, quelles que soient leurs origines. Et donc la laïcité, c'est l'outil qui, en séparant les Églises et l'État, va permettre de faire que chaque individu, quelle que soit sa couleur, ses origines, eh bien, soit un citoyen qui a les mêmes droits, et qui a aussi les mêmes devoirs.
Alors pourquoi pose-t-elle autant problème aujourd'hui, Michel Wieborka?
Écoutez, c'est parce qu'on est en train de vivre, j'ai envie de dire, le symétrique ou l'inverse de ce qui avait abouti à la loi de 1905. C'est-à-dire aujourd'hui, la question, ça n'est évidemment pas de séparer l'islam de l'État, en tout cas en France. Parce qu'en Arabie, ce serait peut-être un peu différent. Mais le problème, il est au contraire de dire quelle place doit-on donner à l'islam en France de façon à ce que les musulmans rentrent dans la laïcité. Et donc, c'est une question de faire entrer dans un processus d'intégration civique, en quelque sorte, une partie de la population française d'aujourd'hui.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que cette loi, elle est encore adaptée, il faut juste la faire un peu évoluer. On l'a déjà modifiée hein, à plusieurs reprises.
Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire précise de cette loi et de son contenu, mais les grands spécialistes vous diront souvent qu'elle a été extrêmement discutée, extrêmement débattue, extrêmement pensée, que c'est très très élaboré. Le résultat, c'est vraiment quelque chose, c'est magnifique ce qui a été fait. Et que il semble qu'avec quelques aménagements, la loi de 1905 puisse encore fonctionner.
Vous êtes d'accord avec ça, Valentine Zuber? Je rappelle que vous êtes historienne.
Oui, tout à fait. Je dirais qu'il faut voir la loi de 1905 à deux aspects. Elle a deux premiers articles de principe qui, là, sont quasiment intangibles et qui sont l'un de garantie de la liberté de conscience et de culte des citoyens par l'État, et le deuxième qui précise un petit peu les modalités de séparation, à savoir que l'État ne doit subventionner aucun culte et ne doit reconnaître aucun culte. Donc ces deux premiers articles de principe, on ne peut pas, et d'ailleurs personne n'a cherché à les toucher. En revanche, tout ce qui suit, une grande partie de ce qui suit, tout ce qui est de la police des cultes, évidemment peut être un petit peu daté, et c'est pour ça qu'il y a eu une dizaine de changements de cette loi, mais sur des articles un peu techniques de police des cultes.
On va poursuivre notre débat dans un tout petit instant. Merci à vous. On poursuit sur Europe 1, notre club des idées autour de la laïcité, avec mes invités, le sociologue Michel Vivorca, Patrick Kessel, président d'honneur du comité laïcité République, et l'historienne Valentine Zuber qui est en ligne avec nous. Alors on a je pense bien posé le problème le principe de la laïcité. Vous nous avez bien expliqué dans la première partie, vous nous avez dit que la loi de 1905 était encore adaptée à notre monde actuel, et pourtant on sait combien elle est décriée, on a entendu les polémiques ces derniers jours. Je voudrais comprendre pourquoi, à quel moment est-ce que ça a commencé à poser problème. Est-ce que c'est par exemple en 1980 quand il y a eu cette histoire de Creil dans l'Oise, il y a 30 ans, cette question de la laïcité a été posée en France, l'exclusion de trois collégiennes qui refusaient d'enlever leur voile en classe. À l'époque, ça suscite une polémique, des débats intellectuels, médiatiques et politiques. Patrick Kessel, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a raté quelque chose ?
Il faut d'abord préciser, pardonnez-moi, je reviens un instant en arrière, que la loi de 1905 n'est pas le fruit d'une négociation entre la République et l'Église. C'est la République qui a décidé. C'était le fruit, comme l'a dit Michel Vivorca, d'un travail de plus d'un an en commission au Parlement. Et l'Église était tellement mécontente que tous les députés, croyants ou incroyants qui l'ont voté, ont été excommuniés. Donc ça n'a pas été une partie facile. Et les députés de l'époque ont eu le courage d'assumer que la liberté de conscience devait s'ouvrir à tous, religieux, pas religieux, croyants ou pas croyants. La question donc aujourd'hui, c'est pas savoir s'il faudrait renégocier cette loi, si la République doit négocier.
C'est pas ma question.
D'autres...
Ma question, non, c'est à partir de quel moment elle a commencé à poser problème.
Justement, j'y viens. Elle commence à poser problème à partir du moment où des gens se comportent et revendiquent de telle sorte qu'ils se mettent en dehors de la loi républicaine, de la tradition républicaine, qu'ils vont demander des exemptions à la loi de tous, par exemple porter le voile dans les écoles, je ne vais pas être trop long, je pourrais donner 50 autres exemples, et à un moment donné, ils estiment qu'il faut modifier la loi, il faudrait adapter la loi de 1905 à des populations originaires d'ailleurs et qui auraient d'autres cultures, et donc nous vont devant ce conflit. Et donc nous pensons, dans la grande famille laïque, qu'il faut tenir compte des réalités, mais ce n'est pas à la République à s'adapter, c'est aux religions, aux confessions, de rentrer dans le cadre de la République.
Donc le coup de canif, ce serait 1989, oui. Michel Vivorca ?
Je pense que tout dépend du type de démarche que l'on adopte. Si on a une démarche politique, au bon sens du mot, une analyse politique, je suivrai volontiers ce qui vient d'être dit par Kessel. Par contre, je pense qu'on peut avoir une démarche beaucoup plus sociologique, c'est mon job. Et une démarche plus sociologique va regarder ce qui s'est passé en France à l'époque. Et pour moi, c'est la formidable transformation de l'immigration qui était venue essentiellement d'Afrique du Nord dans les années 50 et 60 avec l'idée de repartir au pays et qui, pour différentes raisons, crise économique, regroupement familial rendant ça possible, fait le choix de rester en France. Or, cette population fait le choix de rester en France au moment où viennent les difficultés économiques et on va découvrir les problèmes des banlieues. Enfin, on pourrait ouvrir un long débat là-dessus. Et on va s'apercevoir à ce moment-là qu'au sein de cette population apparaissent des acteurs qui vont commencer à mettre en avant l'islam. Je ne dis pas l'islamisme ou l'islam radical ou les attaques contre la laïcité. Et pour moi, un moment très important, par exemple, de la prise de conscience de tout ça, c'est un livre de Gilles Kepel, bien connu comme spécialiste de ces enjeux, un livre de Gilles Kepel qui doit dater de 85 ou 86, dont le titre était « Les banlieues de l'islam ». Donc je pense qu'il y a une dimension politique dans ce qui s'est passé, ça je suis tout à fait d'accord, et une dimension interne au dossier de la laïcité, mais il y a aussi les transformations sociales et économiques de notre pays et territoriales, la naissance des banlieues, et que c'est tout ça qui fait que ça nous pète en quelque sorte en pleine figure en 89, vous avez raison d'évoquer cette date, parce que d'un seul coup, la France entre en transe avec ce débat sur les trois jeunes filles de Creil.
Vous êtes d'accord, Valentine Zuber, milieu des années 80, c'est à ce moment-là que les choses ont basculé, entre guillemets ?
Oui, disons que c'est un point de bascule, mais il ne faut pas oublier que jusque-là, les problèmes de laïcité se posaient essentiellement avec l'Église catholique et en particulier dans le combat des deux écoles entre l'école publique et l'école confessionnelle, souvent catholique, et qui s'est résolue par une loi extrêmement controversée à gauche, qui a été la loi Michel Debré de 1959, qui permettait un certain subventionnement des écoles privées sur fonds publics. Donc la laïcité, elle a une histoire longue. Ensuite, effectivement, il y a cette date de 1989 qui est le début de ce débat sur la place de l'islam dans notre société. Ceci dit, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit par Monsieur Kessel. Je ne vois pas que ce qui était contesté, c'était la loi de 1905 à cette époque-là. Il n'y a pas eu de demande en ce sens, de demande de changement de la loi en faveur des musulmans. Il y a simplement eu une demande par des musulmans qui ont commencé à s'organiser et à avoir conscience de leur place dans la République, de bénéficier des mêmes droits que les autres cultes présents sur le territoire.
En tout cas, c'était peut-être la première fois que cette question de la laïcité était posée de cette façon en France. Alors, il a fallu attendre assez longtemps, 2003, pour que Jacques Chirac, président de la République, constitue un groupe de réflexion sur l'application du principe de la laïcité dans la République, la fameuse commission Stasi qui a fait des recommandations pour adapter la laïcité à l'époque. Ces recommandations, elles ont été suivies par le président. Il en est ressorti une loi en 2004, une loi qui interdit les signes religieux dans les écoles publiques. Je voudrais qu'on écoute ensemble ce que disait le président de la République justement en 2004.
J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics.
Jacques Chirac, le premier président qui met vraiment le sujet sur la table. A priori, cette loi, elle aurait dû régler le problème. Or, il est toujours d'actualité, Michel Wieborka.
À l'époque, on a plutôt annoncé que ça allait susciter des grands troubles et des grands mouvements de protestation. Et en réalité, les seuls petits épisodes dont j'ai le souvenir de problèmes qui soient apparus une fois cette loi votée, ont été formulés à partir de l'expérience de jeunes sikhs. Enfin, c'était rien à voir. Mais il y a eu un événement très important. C'est que dans le contexte où cette loi venait donc d'être votée, deux ou trois, je crois que c'était des journalistes, en tout cas des Français, sont kidnappés au Liban.
Oui.
Et parmi les revendications des ravisseurs, il y a abroger cette loi. Et à ce moment-là, une délégation française de représentants du culte musulman français va, je crois que c'est au Liban ou en Syrie, en tout cas dans cette région du monde, et déclare de façon très très nette, nous sommes dans la République française. Et donc, nous n'étions pas en faveur forcément de cette loi, mais nous demandons aux ravisseurs, qui se réclament de l'islam, de ne pas mettre cette revendication sur le devant de la scène. Et ça a eu, je crois, un très gros impact. En tout cas, je pense que cette mesure a relativement calmé le jeu. Mais, monsieur Kessel...
Patrick Kessel, vous êtes d'accord avec Michel Wieborka ?
Quelques nuances. D'abord, vous avez raison de dire que 1989, octobre 89, c'est Creil, et c'est vrai, c'est la révélation de quelque chose qui a commencé à se préparer dans les fondements culturels du pays, c'est-à-dire l'apparition d'un mouvement anti-laïque, et qui, curieusement, pour la première fois de l'histoire, apparaît plutôt à gauche. Alors que, historiquement, c'est la droite, l'extrême droite, le monde catholique intégriste qui a toujours été contre la laïcité, on voit apparaître maintenant, au nom du droit à la différence, une proposition de différence des droits. On est dans un système tout à fait différent et on va voir petit à petit, en croyant bien faire, en voulant être gentil avec les héritiers des victimes du colonialisme, avec la nouvelle expression de la lutte des classes et du prolétariat en armes, je vous passe les formules,
oui.
Je vous passe les formules qui viennent souvent de l'ultra-gauche, on voit apparaître petit à petit une revendication de différentialisme juridique.
Vous savez quoi, on va en parler juste après la pause, c'est promis. Parce que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. On se retrouve dans un tout petit instant.
Isabelle Millet.
19h41, on poursuit ce débat du Club des idées en direct sur Europe 1. On parle ce soir de laïcité avec mes invités Michel Wieborka, le sociologue, Patrick Kessel, président d'honneur du comité Laïcité République, et l'historienne Valentine Zuber. Alors la laïcité, on a l'impression qu'elle est brandie en permanence et par tout le monde. Elle est censée éclairer le débat. Pourtant, parfois, on a l'impression qu'elle l'obscurcit. Est-ce qu'il y a une politisation de la laïcité, notamment du côté de la droite, qui n'a pas voulu une laïcité de combat, par peur de se couper de l'électorat catholique, brèche dans laquelle se sont engouffrés les islamistes? Je voudrais qu'on écoute ensemble le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui était ce matin sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk.
Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à
qui,
des
par
acteurs.
Exemple, des milieux intellectuels, des milieux universitaires, citons-les.
Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Et donc, tout simplement, favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène évidemment au pire.
Jean-Michel Blanquer, ce matin sur Europe 1, qui pointe notamment la France insoumise et l'UNEF. Est-ce qu'il a raison, Patrick Kessel? Elles ont un rôle dans la montée de l'islamisme radical?
Je le disais tout à l'heure, ce qui est nouveau depuis 20 ans, c'est que les attaques contre la laïcité ne viennent plus de la tradition xénophobe seulement d'extrême droite et de catholicisme intégral. Elles se sont développées et nourries en venant de l'ultra-gauche et en gagnant une partie de la gauche qui a pensé faire du social, qui a pensé défendre les pauvres et les miséreux, mais qui a induit dans cette affaire le ver, le serpent qui fait qu'aujourd'hui c'est la République elle-même qui est menacée. Et donc, ce que dit le ministre, c'est important. Parce que voilà 30 ans que nous voyons les pouvoirs politiques se succéder et tous, finalement, se saisir par opportunité de la question laïque avec des arrière-pensées électoralistes, mais personne ne prend véritablement à corps le problème. Et je dois dire, M. Blanquer, sans analyse politique, ni encore moins politicienne, que c'est la première fois qu'on a le sentiment qu'il a envie de cesser de mettre la poussière sous le tapis. Et donc ça, c'est un élément qui devrait rassembler les Républicains des deux rives, parce qu'il est important aujourd'hui, pour l'avenir de la République, d'intégrer tous les enfants, d'où qu'ils viennent, de rappeler le rôle de l'humanisme et de l'universalisme. Et pour cela, nous avons besoin d'une école moderne,
oui.
Nous avons besoin d'une école laïque, et nous avons besoin aujourd'hui d'une autorité politique. Elle semble se manifester, c'est de bon augure.
Valentine Zuber, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, en partie, mais je suis assez amusée par le lapsus de Monsieur Kessel.
Église-école.
Voilà.
Vous avez raison de le relever.
L'école républicaine est une sorte d'église de la République. Hein. Et donc, il y a un message aussi très fort qui passe à travers l'école, et ce, depuis qu'elle est pensée, depuis qu'elle est mise en place, depuis la Troisième République. Mais il y a quand même quelque chose que je voudrais mettre en avant. C'est que l'école publique, telle qu'on l'exalte actuellement, eh bien, elle est assez différente finalement de celle qui a été créée par les grands ancêtres républicains, par Jules Ferry, par Jean Jaurès, par Ferdinand Buisson. Et rappellerai par exemple que dans sa fameuse lettre aux instituteurs, Jules Ferry, à propos de la morale laïque hein, qu'il mettait en place dans le cursus commun, avait écrit spécifiquement aux instituteurs, hein, ça date de 1883, et je vous le lis, « Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire, sinon parlez hardiment. » Eh bien, on est loin de ce respect, de cette tolérance et de cette inclusion de toutes les sensibilités à l'école républicaine actuelle.
Effectivement, et de tout ce qu'on a pu entendre hier lors de l'hommage à Samuel Paty. Je me tourne vers vous, Michel Wieborka. Est-ce qu'il y a un entrisme de l'islamo-gauchisme? Et comment est-ce que ça se traduit?
Il y a certainement des enseignants moi je n'aime pas beaucoup cette catégorie, mais enfin disons qui relèvent de ce qu'on appelle comme ça. Mais je crois que le problème est d'une nature assez différente. C'est pas tellement qu'il y ait de l'entrisme de ceci ou de cela, c'est qu'il y a un système éducatif en crise. C'est la crise de l'école publique qui est en jeu aussi. Évidemment, elle n'est pas responsable d'un type qui vient tuer de façon barbare de l'extérieur. Mais les Français ont longtemps cru que leur système éducatif était le meilleur du monde. Et maintenant, il y a des enquêtes internationales, PISA, je crois qu'elle s'appelle ainsi, qui démontre que la France, c'est moyen. On n'est pas les plus mauvais, mais on est loin d'être les meilleurs. Et on s'aperçoit que les enseignants, ça a été dit et redit, et c'est quelque chose qui est patent depuis la fin des années 70, on s'aperçoit que les enseignants sont très mal à l'aise. Dès qu'il faut traiter de la Shoah devant des enfants qui viennent de milieux un peu antisémites, dès qu'il faut traiter du Moyen-Orient, dès qu'il faut traiter d'un certain nombre de grands thèmes, qui, de la colonisation, de la décolonisation, de l'Algérie, enfin que sais-je.
Ça vient de quoi ?
Et donc, je pense que ce qu'il y a, c'est que nos enseignants ne se sentent pas assez bien formés et assez bien épaulés pour affronter ces questions qui ne sont donc pas tellement des questions de la laïcité en elle-même, qui sont qu'il faut des conditions favorables au travail des enseignants pour qu'ils puissent imposer ce principe de laïcité. Et puis j'ajoute que le débat va aujourd'hui très au-delà de la seule question de la laïcité, ou en tout cas de la laïcité à l'école. Est-ce qu'à l'université, c'est une question de laïcité si des jeunes filles viennent avec un foulard ? Certainement pas. Moi, j'ai eu souvent des étudiantes avec un foulard, ça ne m'a jamais posé de problème majeur. Est-ce que quand des femmes se présentent sur une plage avec un burkini, ça avait fait un scandale il y a quelques années, on est dans la laïcité. Vous voyez, on a mis dans ce débat sur la laïcité, je pense, des questions qui mériteraient peut-être un autre traitement et qu'on ne sépare bien.
Qui n'aurait pas dû y rentrer, selon vous ?
Comment ?
Qui n'aurait pas dû y rentrer.
Oui, et puis surtout, ne confondons pas la question scolaire, la question de l'enseignement, de l'éducation et des conditions qui rendent possible une éducation totalement respectueuse de la laïcité et donc qui forme à la laïcité. Ne la confondons pas, cette question, avec d'autres enjeux qui traversent notre société.
Patrick Kessel, il y a une instrumentalisation de la laïcité aujourd'hui ?
Bien évidemment qu'il y en a une. Il y en a une de l'extrême droite. Il y en a une ancienne qui tente de... J'ai écrit un livre en 2012 qui s'appelle « Ils ont volé la laïcité », illustré par Charb, mon copain de Charlie Hebdo. Bien évidemment qu'il y a une tentative de détournement à des fins xénophobes. Mais ce n'est pas parce que l'extrême droite dit cela qu'on n'a pas le droit de traiter le problème. Et je pense que si on continue à nier les problèmes qui ne se posent pas seulement à l'école, qui se pose à l'université, qui se pose à l'hôpital.
Le ministre, il parle d'islamo-gauchisme.
Mais l'islamo-gauchisme, parce que c'est l'origine. Mais cette idéologie, aujourd'hui, elle s'est répandue un peu partout. Elle est dangereuse. Il est important que les républicains des deux rives se ressaisissent. Sinon, c'est votre question, c'est ma réponse, sinon l'hypothèse d'extrême droite, et on le voit avec les sondages encore de ce matin, pourrait ne pas devenir qu'une hypothèse d'école.
Alors justement, tour de table très rapide de vous trois, 87% des Français estiment que la laïcité est en danger. Est-ce que vous êtes d'accord, Valentine Joubert ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec cette formulation. Ce n'est pas la laïcité qui est en danger, c'est les conditions du vivre ensemble dans notre société qui doivent être envisagées avec fermeté, mais aussi avec beaucoup d'intérêt et de soucis que les libertés de chacun soient égales pour toutes.
Michel Viaborca.
Je ne pense pas qu'il faille parler de danger, mais je pense qu'il faut parler d'un vrai problème et que par conséquent, il faut absolument, marcher sur deux jambes, s'assurer que la laïcité est bien respectée, donc réprimer tout ce qui ne la respecte pas, et en même temps savoir que pour qu'elle puisse être respectée, il faut que dans la société, on cesse d'avoir des ghettos, on cesse d'avoir des populations maltraitées, ignorées, et donc c'est à la fois un problème social, si je peux dire, ou social et politique, et un problème spécifique.
Patrick Kessel, très rapidement.
Une phrase.
La laïcité en danger ?
Aujourd'hui, depuis la mort de notre ami, l'enseignant qui devient un symbole de la République, le problème est fondamentalement d'abord politique. Il faut remettre l'école au milieu du village pour que tous les enfants, d'où qu'ils viennent, de Syrie, d'Irak, deviennent des citoyens français, libres et égaux, pensent par eux-mêmes, remettre l'école au village, au milieu du village, et remettre l'universalisme et la citoyenneté au cœur de la République.